Voilà, nous allons commencer. Merci à tous d'être venus ce soir. Au nom du forum, nous vous remercions vraiment de cette venue. J'en profite aussi pour remercier les éditions Seuil d'avoir avancé la sortie du livre de Florence Autré, qui sortira donc officiellement demain, mais dont vous pourrez profiter dès ce soir de ses commentaires et de son livre en vente. Et enfin, la librairie Filigrane qui a bien accepté de nous accueillir ce soir. Et je crois que, comme personne ne connaît le livre, je propose qu'elle nous le présente en quelques minutes. Je vais juste peut-être, pour cadrer un peu, lui demander deux choses. Si il était opportun de sortir un livre sur Nicolas Sarkozy... Allô. S'il était opportun de sortir un livre sur Nicolas Sarkozy en pleine présidence française. Nous sommes à 3 mois, il en reste 3 mois encore. Et si le sujet Sarkozy est aussi un sujet qui est intéressant pour des éditeurs, et donc peut-être il peut avoir une influence. Voilà, je vous remercie.
Bon. Merci beaucoup d'avoir organisé cette soirée et de m'avoir invité et d'être là, évidemment. Alors, sur le... Oui, enfin, je sais pas, c'est vraiment une question, ça. Est-ce que c'est opportun de sortir un livre en pleine présidence? Bon, en fait, le livre se termine au début de la présidence, parce qu'il faut quand même un certain temps pour le fabriquer après. Donc, à un moment donné, il faut faire tomber le couperet et s'arrêter. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose sur la présidence. Il y a des choses sur les priorités de la présidence et le fait qu'elles ont été contrariées. Mais... Non, en fait, le livre est plutôt venu de... comme un peu une curiosité qu'on partage tous, en fait, pour le personnage. Quand on a commencé à le voir arriver à Bruxelles pendant la campagne électorale, et puis après, ses premières déclarations, etc., il y a eu une sorte de montée en puissance comme ça qui excitait la curiosité, je pense, de tout le monde, ou des journaux. Donc, pourquoi pas en faire un livre. Sachant que... oui, peut-être les éditeurs sont intéressés par Sarkozy. C'est vrai qu'à l'origine, j'étais... Parce qu'en fait, il y a un an, on avait publié au Seuil un autre ouvrage qui s'appelle L'Amérique à Bruxelles. Je continue la promotion. Et alors, qui est toujours disponible. Et donc, mon idée, c'était de revenir à un sujet plus français, à un traitement français, en disant, et finalement, mais quel est le rôle de la France dans l'intégration européenne? Alors, bon, ça, c'est un peu un travail d'historien. Mais, et donc je l'ai traité de façon journalistique en disant, et finalement Sarkozy comme exemple, comme phénomène politique, comme exemple en fait de l'incarnation de la France sur la scène européenne, qu'est-ce que ça donne, quoi. Et ce qui m'a donné l'énergie en fait de l'écrire, c'est je l'admets, et bon, ceux qui liront le livre verront qu'il est un petit peu ironique, c'est quand même une sorte de déception ou de contrariété, parce que dans des premiers, les premières prises de position de Sarkozy sur l'Europe étaient finalement pour nous bruxellois assez confortables, sympathiques. C'était Barnier Lamassoure qui lui faisait ses discours. Alors bon, voilà, on était très contents. Et donc on s'est mis un petit peu à rêver. Et puis après, crac, il est devenu candidat pour de vrai. Guénaud, vous verrez, occupe une certaine place, Henri Guénaud, son conseiller dans le livre. Il a été quand même beaucoup plus beaucoup plus influencé par lui. On a eu un changement de discours très très net, et en fait on est passé d'un Sarkozy très euro enthousiaste, voire carrément euro-béa, à un Sarkozy très assez souverainiste en fait, et qui nous renvoyait plus au débat qu'il y avait eu au moment du vote sur le traité de Maastricht. Et ce décalage, plus l'omniprésence de Guénaud dans ses discours, je crois que vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est une interview qu'a donnée Guénaud au Financial Times et qui avait fait la une au mois de décembre, où il expliquait la concurrence est totalement dogmatique, la commission est totalement dogmatique, la politique de la concurrence est une bêtise, l'indépendance de la BCE n'a pas de sens. Enfin, c'était vraiment en une du journal, vraiment lu dans pas mal d'endroits, mais notamment dans le microcosme communautaire, c'était vraiment catastrophique. Je veux dire, on est complètement carbonisé. Et donc, ça m'a tellement énervée qu'à ce moment-là, en fait, j'ai abandonné mon idée d'un projet plus un peu historique, la France et l'Europe, etc., et pour aller vers un traitement plus journalistique sur Sarkozy, Guénaud et l'Europe, quoi, un petit peu.
Vous ne le traitez pas dans le livre, mais comment jugez-vous ce début de présidence, avec notamment la crise géorgienne et la gestion de la crise financière actuelle, le rôle de Sarkozy? Est-ce qu'il prend une dimension européenne en ce moment, ou il
Alors,
reste
sur la crise géorgienne... La crise géorgienne, il y a un aspect, je trouve, qui est intéressant, c'est qu'il est allé deux fois à Moscou. Bon, Cohn-Bendit lui a dit « Retourne-y tant que tu veux, prends une chambre au Kremlin ». Bon, c'est assez marrant. Bon, il y est quand même allé deux fois. Et la première fois, il y est tout seul. Et après, il est retourné avec Barroso et Solana. Et entre les deux, donc, il y avait eu le Conseil européen. Et là, moi, j'ai eu une impression plutôt positive où je me disais, finalement, l'énergie de cette personne qui a toujours besoin d'être présent, de faire des choses, de prendre des décisions, de négocier des choses, peut être assez nuisible quand elle n'est pas canalisée. Or, au niveau national, souvent, elle n'est pas canalisée parce que la France est un pays aux institutions décadentes où le pouvoir est extrêmement concentré et où il n'a personne face à lui. Mais alors, donc, la première fois qu'il est allé, il est allé tout seul. Il est allé un peu comme ça, à la française, à la hussarde. Et puis, la deuxième fois, il est retourné après un Conseil européen avec d'autres. Et là, il avait été recadré dans une instance de Conseil où il est un parmi d'autres, même s'il exerce la présidence en ce moment. Et donc, je me suis dit, en fait, le système européen le canalise. Il a des homologues, il y a des vrais contre-pouvoirs, enfin, même si on peut interdire la politique étrangère, évidemment la Commission et le Parlement ne sont pas très présents. Et donc, en fait, ça exerce un effet très bénéfique sur son attitude. Donc, c'était plutôt ça mon impression. Maintenant, sur l'issue de la crise géorgienne, je pense qu'on vraiment, là, il faut attendre de voir ce qui en ressort. Toutes les questions sont posées, je veux dire. C'est-à-dire, on revit la crise géorgienne. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est aussi important que 53. C'est-à-dire que c'est la chose la plus importante qui est arrivée depuis qu'on a pensé la CECA. Parce que c'est l'Europe qui existe dans un monde, pour la première fois dans le monde de l'après-guerre froide. Parce que finalement, après 89, la seule politique européenne a été de s'élargir. Mais l'Union européenne n'avait jamais été confrontée aux questions soulevées par la fin de la guerre froide, qui n'apparaissent que maintenant, parce que jusqu'à présent, la Russie était relativement faible, qui sont des questions géopolitiques, qui sont des questions de sécurité, etc.
Juste pour continuer sur ce dossier, après on ouvrira la salle aux questions. Vous la voyez où, un peu, la réflexion ici à Bruxelles ou dans les États membres, et où précisément, par exemple, à Bruxelles, si ça ne vient pas en ce moment de la présidence qui n'initie pas? Là, j'appelle plus l'observatrice que vous êtes.
Alors, non, mais il y a plein de gens qui... Sur la crise financière, vous voulez dire? Oh là là. Non, il y a toutes sortes d'économistes qui travaillent sur ces questions-là, qui sont consultés par le Parlement, qui sont consultés par la Commission. Le Parlement est beaucoup plus transparent quand même. Souvent, ils invitent les journalistes à leurs auditions, à leur groupe de travail, donc c'est un peu plus facile de voir. La Commission, c'est moins évident. Vous voulez que je nomme des gens? Donc, non, je ne sais pas. Il y a plein de gens. Il y a des universitaires, il y a des think tanks. Je ne vais pas faire la promotion des uns et des autres, mais qui travaillent effectivement sur ces questions-là. Mais c'est vrai que dans une circonstance tout à fait critique comme celle-là, on sent que, encore une fois, les dirigeants nationaux sont pris par leurs agendas. Ils ont quand même beaucoup de mal à prendre des risques. Le Parlement européen, par exemple, au Parlement européen, le Parti socialiste européen était très actif sur les questions de supervision financière, de régulation financière en général. Ils s'y sont pris peut-être de manière un peu maladroite, en mettant beaucoup en avant le problème des hedge funds et des fonds d'investissement, ouais, de certains fonds d'investissement. Et du coup, ils sont un peu coincés dans cette rhétorique-là, donc ils ont du mal à se raccrocher. Mais là, il y a des choses qui se passent et ils essayent de réfléchir un petit peu. Maintenant, je pense que dans une circonstance comme celle-là, il faut une impulsion, je pense, de l'extérieur. Au reste, c'est ce que le Parlement avait la sagesse de proposer, même si ça ne plaît pas tellement aux gens qui critiquent toujours l'absence, le manque de démocratie en Europe. Mais c'est vrai que, je veux dire, on a fait la monnaie unique en partant en fait, des travaux d'un groupe des sages. Et c'est vrai que dans une circonstance comme celle-là, on aurait envie d'entendre des gens comme, par exemple, comme le baron Lanfalussy, qui avait lancé le plan d'action sur les services financiers à l'époque sous présidence française, et qui parle de temps en temps, d'entendre des gens comme ça, un peu qui sont à la fois des bons connaisseurs et puis qui sont un peu extérieurs aux institutions et qui, pour lancer des idées, quoi, pour essayer d'avoir des idées. Parce que là, vraiment, je pense que tout n'a pas été essayé loin de là. Je veux dire, encore une fois, je veux dire, on n'a pas vraiment le choix entre avancer ou reculer, quoi. Et là, on n'avance pas. Et donc, en fait, on a l'impression que le seul résultat tangible de tout ce qui se passe maintenant, c'est une forme de renationalisation, en fait, ou de démantèlement de ce qui a été fait. Le sommet de Paris, c'est quand même, peut-être pas la fin du pacte de stabilité, mais c'est quand même un peu sa remise en cause, quand même. Alors, il est remis en cause de facto, vu la situation dans laquelle on est. Mais si on le remet en cause, il faut quand même dire ce qu'on met à la place, parce qu'on peut pas juste avoir une monnaie unique et rien en face. Je veux dire, il faut des garanties pour, sinon on tue l'union monétaire à terme. Donc là, il faut répondre à ça. Donc on a l'impression qu'on recule en fait, on recule sur les règles. Je veux dire, le fait que Nelly Cruz soit obligée de faire des moulinets depuis une semaine en disant ouh, on est là, venez nous voir, on est ouvert 7 jours sur 7. C'est quand même, ça veut dire que la tentation est quand même très forte de s'affranchir de ça. Or, les disciplines européennes, elles sont pas très nombreuses. Les disciplines européennes, c'est la politique de concurrence et les libertés, les quatre libertés du marché intérieur. Je veux dire, c'est tout. Si vous touchez à ça, effectivement, là, quand même, vous touchez au cœur du truc. Après, on peut parler de tout. Mais ça, c'est quand même précis. Donc, moi, il me semble qu'il y a vraiment cette tentation d'une forme de renationalisation ou de remise en cause de l'essentiel. Je veux dire, son discours de Toulon, là encore, de Sarkozy, il en remet une couche sur la politique de la concurrence. Il redit les mêmes choses qu'il avait dites pendant la campagne électorale. Franchement, je comprends pas. Moi, je comprends pas l'utilité politique de rabâcher ça. Sinon, soit il y croit, soit effectivement on lui souffle, soit j'en sais rien. Mais ça m'échappe. Mais du coup, j'ai pas répondu à votre question. Non, mais je veux pas dire moi qui sur les services, qui réfléchit à des solutions. Il y a plein de gens qui réfléchissent dans tous les sens. Mais il faut à un moment donné, je veux dire, l'Europe, c'est un problème de mécano institutionnel. C'est-à-dire, vous avez le trio institutionnel qui fonctionne quand même assez bien, mais par moment, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres choses qui s'articulent dessus. Et là, je ne trouve pas que... Je n'ai pas l'impression, et peut-être que je me trompe, et il y a plein de choses qui sont en train de se tramer, je l'espère. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait du côté des chefs de gouvernement qui sont en fait les seuls maîtres à bord dans une situation dramatique comme celle-là, d'ouverture à un apport extérieur, etc. Moi, je vois plutôt la tentation du repli. Et c'est surtout ce qui est très inquiétant. Alors, sur la presse, c'est vrai qu'il y a certainement on a beaucoup de progrès à faire dans notre travail et dans le traitement qu'on fait des choses. Il faut être beaucoup plus impertinent, il faut être beaucoup moins institutionnel, il faut être beaucoup moins technique. Mais c'est un travail qu'on doit faire sur nous, parce que c'est pas facile. Et c'est un travail qu'on doit faire vis-à-vis de nos rédactions, parce qu'ils sont pas, ils ont été habitués à un traitement assez barbant, je veux dire, de l'actualité européenne. Donc, résultat, au mieux, ils s'intéressent à ça, ils veulent bien des articles, mais ils les veulent super factuels, un peu didactiques, justement. Et donc, ils font un peu la communication de la Commission à sa place. Donc, ce qui est vraiment la dernière chose à faire si vous voulez vendre des journaux, parce que donner une brochure de la Commission, c'est une chose, mais le journal, il faut l'acheter. Donc, si les gens s'ennuient, ils vont pas l'acheter. Je pense que les Anglais ont beaucoup mieux compris ça. Ils sont beaucoup plus désinvoltes. Alors, parfois, ils racontent des grosses bêtises. Bon, je dis pas qu'il faut raconter n'importe quoi non plus. Mais il faut être beaucoup plus indépendant. Je pense que longtemps, en fait, la presse ici à Bruxelles, étaient, enfin, les représentants étaient des européistes plutôt. Enfin, moi, je suis bien placée pour savoir, parce que je suis plutôt de ce côté-là aussi. Et donc, estimaient qu'ils avaient une sorte de mission politique, était de défendre ce qui se passait ici. Je crois qu'il faut vraiment renoncer à ça. C'est-à-dire que quand c'est n'importe quoi, il faut dire c'est n'importe quoi. Quand la Commission prépare un mauvais texte, si on a 15 lobbies avec représentants des intérêts différents qui nous disent le texte est nul, hein, c'est une catastrophe, il va falloir tout réécrire. Il y a quand même eu pas mal de textes comme ça. Enfin, je veux dire, sur les services financiers, il y en a eu 2 ou 3. Enfin, la directive transparence, c'était une catastrophe. La directive prospectus, c'était une catastrophe, etc. Bon, ça n'intéresse pas le très grand public, mais après tout, il y a des enjeux aussi plus larges. Il faut pas hésiter à l'écrire.
Que Sarkozy peut avoir une influence en termes de publicité sur l'Europe au niveau des Français.
Et bon, évidemment, oui, puisqu'il est très écouté, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à Nicolas, c'est-à-dire attention à ce qu'on dit aussi, quoi. Il faut quand même... Il faut faire attention de ne pas céder à la tentation un peu populiste en disant c'est la faute de l'Europe, quoi. Et que ce qui est très très banal, et encore une fois, ce qui n'est pas le propre de Sarkozy. Hein. Mais évidemment, son activisme va rejaillir aussi là-dessus, quoi. Mais moi, les gens ont voté non au traité constitutionnel. Bon. Alors, c'est difficile de dire qu'au fond, ils sont ultra pro-européens. Mais bon, après tout, c'était qu'un vote, c'était un traité, c'était un peu bizarre. Moi, je crois que on ne peut pas compter que sur les dirigeants nationaux pour faire la promotion de l'Europe, précisément à cause de l'ambivalence dont je parlais tout à l'heure. Les classes politiques nationales sont très ambiguës dans leur manière de défendre la politique européenne. Parce que je veux dire, une infirmière du textile du fin fond du Jura est plus exposée à la mondialisation qu'un député français. Les types, ils parlent même pas l'anglais, quoi. Ils viennent ici, avec qui ils parlent. Je veux dire, il y a quand même un problème là de retard, en fait, des classes politiques nationales par rapport à l'évolution du monde. Je veux dire, les députés français qui sont au Parlement européen, ils en bavent un peu au début parce que c'est beaucoup plus concurrentiel. Il faut être plus expert, il faut parler plus de langues. C'est plus dur, quoi. C'est plus dur. C'est pas les systèmes majoritaires classiques, etc. Les choses sont pas simples. Et du coup, je pense qu'il y a dans l'inconscient des classes politiques nationales une forme de méfiance. Donc du côté de l'exécutif, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un peu la branche sur laquelle on est assis. Et du côté du pouvoir législatif aussi, parce que un peu pour d'autres raisons aussi, parce que le pouvoir, la régulation économique se fait ici maintenant, donc ils sont un peu dépossédés de ça. Donc il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ils sont un peu réticents. Et je pense qu'il faut, c'est une excellente chose que grâce au Parlement, et quand même il y a 800 personnes plus tous leurs assistants, etc., qui sont brassés là-dedans. Année après année, il y a quand même une sorte de population qui se crée, quoi. Sociologiquement, c'est très important. Et le débat, par exemple, sur la crise financière, entre le débat qu'il peut y avoir au Parlement européen, avec malgré tous les critiques qu'on peut avoir, et le débat qu'il peut y avoir à l'Assemblée, ou peut-être au Bundestag, on ne sait rien, il y a un écart immense, quoi. Donc, ne comptons pas trop sur les dirigeants nationaux quand même pour faire la promotion de l'Europe. Enfin, en tout cas, ayons conscience du fait qu'ils ont une réticence naturelle. En fait.
Je remercie Florence Autret d'avoir présenté son livre ce soir et d'avoir discuté avec elle. Je vous rappelle que la soirée est organisée par le Forum 311, qui regroupe des jeunes francophiles et francophones qui travaillent au niveau européen dans différents milieux et qui cherchent à animer le débat européen. Si vous souhaitez nous rejoindre, nous organisons différentes soirées comme celle-ci, des débats en général. Il y a une cotisation de 15 euros. Le trésorier est Bertrand qui est debout ici, si vous le souhaitez. La cotisation est de 15 euros. C'est, pour vous donner une ordre d'idée, le prix du livre de Florence Autret ce soir. Voilà. Bon, je vous remercie tous d'être venus et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci à vous.